la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
Bien, je l'évoquais la semaine dernière, cette chronique « Je lire » démarre en fanfare, je ne sais pas, mais de manière conséquente, puisque j'ai lu beaucoup de choses intéressantes ces dernières semaines, des choses récemment parues. Tout d'abord, deux numéros de la revue 303, le tout récent numéro qui vient de sortir, c'est le numéro 182, sorti en septembre 2024, qui est consacré à l'art contemporain et l'artisanat. Les collaborations fertiles, c'est le sous-titre de ce numéro, qui a été coordonné, initié par Eva Proutot, qui est critique d'art et qui a rassemblé autour d'elle un certain nombre de collaborateurs et de plumes différentes pour parler de ce rapport entre l'art contemporain et l'artisanat. Tout d'abord, dire un mot de la couverture absolument magnifique, par son papier déjà, sa façon, et puis la création, qui est dû à Fanette Mélier, et c'est un très très beau travail que je recommande fortement. Deux mains qui s'entrecroisent, on est dans quelque chose qui pourrait rappeler les coloris et peut-être les arrondis de certaines formes du Bauhaus, mais on est aussi dans cette question de la main qui fabrique. La main qui fabrique, on la retrouve à plein d'endroits dans ce numéro, avec un souffleur de verre autour de questions de cuisine, avec des matières nobles ou moins nobles qui sont utilisées, avec la question du craft et de comment on travaille certains textiles. Il y a donc beaucoup de choses, du végétal également, qui questionnent l'art et l'artisanat entremêlés. L'artisanat qui devient art, l'art qui va vers l'artisanat. C'est un numéro très riche, encore une fois, avec beaucoup de très belles iconographies, quelques dessins aussi, et puis des chroniques pour terminer le numéro, comme à son habitude. Numéro trimestriel, donc on va dire régulier, puisqu'il y a, vous le savez peut-être, pour cette revue 303 qui est publiée avec l'aide de la région des Pays de la Loire, tout d'abord une entrée évidemment régionale, et puis il y a, vous le savez peut-être, une fois par an, un numéro beaucoup plus conséquent, hors série, autour d'un thème, ou parfois d'une notion, ou d'une forme artistique. Il vous en coûtera 15 euros pour quelques 100 pages, tout en couleurs, de textes, d'iconographie, de photographie, de dessin, donc, autour de cette question de l'art contemporain et l'artisanat, les collaborations fertiles. Et je voulais revenir aussi sur le numéro précédent, qui était autour des climats de l'Ouest. Un numéro sur le climat, toujours dans cette forme régulière, donc 15 euros pour une centaine de pages, une petite centaine de pages, avec là aussi beaucoup de photos, des articles évidemment, quelques dessins, notamment de très belles illustrations d'Ariane Hugues autour d'un texte de Guillaume Jean qui parle de la météo marine et de ce qu'il en est des navigateurs qui subissent les intempéries. Un texte plutôt littéraire et presque poétique autour d'une expérience de navigation. Et puis, il y a tout un tas de travaux vraiment pertinents sur la question du climat et de l'histoire des climats, notamment un article de Fabien Lecher qui s'appelle « La vigne et le glacier » et qui sonde les profondeurs historiques du climat. Et puis, il y a des articles aussi sur les tempêtes et on voit comme les choses ont bougé au fur et à mesure des années, des dizaines d'années et des siècles même passés, et comment le climat, les climats évoluent dans la région des Pays de la Loire, dans l'Ouest. C'est le numéro 181 qui est sorti à la fin du printemps dernier et qui coûte donc également 15 euros. Et alors dans ce numéro, dans les articles, dans les chroniques qui concluent le numéro, eh bien on trouve un petit article d'Alain Girard-Dodon sur le projet Pérec. Alors qu'est-ce que c'est que le projet Pérec ? Pérec, comme Georges Pérec, eh bien c'est un projet éditorial d'une maison d'édition des Pays de la Loire qui s'appelle L'Œil ébloui. C'est Thierry Baudin-Hulin qui tient cette vénérable maison d'édition qui a publié de nombreuses autrices et auteurs, de la région ou pas, dans des formes souvent de récits plus ou moins poétiques. Et Thierry Baudin-Hulin est un pérecien averti et même collectionneur. Et il a proposé de lancer une collection baptisée 53 qui rassemblera 53 livres de 53 pages par 53 autrices ou auteurs différents qui tous vont questionner Pérec. Pourquoi 53? Eh bien, vous l'apprendrez dans le numéro 2 de la collection, qui est signé de l'éditeur lui-même, Thierry Baudin-Hulin, qui raconte son lien à Georges Perec et pourquoi il a choisi de lancer cette collection et ce 53, qui est, sans en faire de mystère, un ouvrage inachevé de Georges Perec, qu'il rédigeait au moment de sa mort. Alors, à tout seigneur, tout honneur, la collection commence, le numéro 1, avec Georges Perec lui-même et Jacques Binz pour 50 choses qu'il ne faut tout de même pas oublier de faire avant de mourir. Il s'agit là de la retranscription d'émissions qui ont été diffusées sur France Culture, des émissions de radio, et c'était donc une question qui était posée, 50 choses qu'il faut tout de même ne pas oublier de faire avant de mourir. Et donc les deux auteurs y ont répondu à leur manière, et Perec y fait là un inventaire comme il savait si bien le faire. C'est donc une belle entrée en matière dans cette collection qui pour l'heure compte 8 numéros. Chaque fois, 4 volumes sont publiés d'un coup. Il y a donc eu ce numéro de Perec, il y a celui de Thierry Baudin-Hulin qui s'appelle Trajet Perec. Il y a eu Yokna qui a fait un volume baptisé Permutation. Alors Yokna, c'est l'agence de graphistes, de gens passionnés de livres qui ont fait tout l'habillage, le design de cette collection Perec, qui est constituée comme un jeu de graphisme, presque de puzzle, avec des carrés blancs qui viennent retirer des éléments sur les couvertures qui sont elles toutes de couleurs, mais des couleurs assez pastelles. Et au fur et à mesure de la collection, eh bien, le blanc va envahir la couverture et ne laisser qu'apparaître un tout petit peu de couleur, là où le numéro 1 était, lui, à l'inverse, entièrement coloré avec un seul carré blanc. Je ne sais pas si vous me suivez clairement, mais allez donc faire un tour en librairie pour trouver cette collection 53 de L'Œil ébloui, et vous pourrez avoir une idée de ce dont il s'agit. J'ai pour l'heure lu les volumes écrits par Anne Savelli, « Lier les lieux, élargir l'espace », qui questionne donc évidemment l'espace, une des grandes obsessions de Georges Perec. Et puis Claro, qui a fait « Une seule lettre vous manque », et qui s'amuse donc à créer une comparaison tout à fait pertinente entre le travail de traduction, qu'il connaît bien pour l'avoir fait moult fois, et La disparition, le fameux livre de Georges Perec, et comment traduire, c'est faire disparaître aussi, d'une certaine manière, les ouvrages originaux. C'est une collection à suivre, dont les 4 prochains volumes seront publiés, si je ne m'abuse, au début de l'année 2025. Et il y a toute une liste, peut-être pas encore définitive, d'autrices et d'auteurs pour aller jusqu'aux 53 numéros prévus. Cette collection va emmener son éditeur sur une petite dizaine d'années. Alors de Georges Perec, il est question dans les bandes dessinées de Paolo Basilieri, Fun et More Fun. Publié en français par les éditions Ici Même, c'est originellement, évidemment, comme vous l'aurez compris, italien. Publié en 2014 pour la première édition, 2015 pour l'édition française chez Ici Même, cette vénérable maison d'édition qui est basée à Nantes. De quoi s'agit-il dans Fun and More Fun? Eh bien, d'un travail autour des mots croisés. Et donc, on le sait peut-être, Georges Perec était un cruciverbiste averti. Il a lui-même créé pas mal de mots croisés pour différentes publications dans les années 70. Et on voit d'ailleurs sa figure et son visage et sa représentation apparaître sous la plume plutôt très précise de Paolo Basilieri, qui construit son récit de manière aussi assez énigmatique comme une enquête autour de l'origine des mots croisés. Né visiblement dans le quotidien New York World, c'était un supplément dominical, Fun, donc les premiers mots croisés de l'histoire, et ensuite ça a émaillé un peu partout dans le monde, et c'est cette histoire-là, ce récit-là, qui est détaillé par l'auteur italien sur 2 gros volumes qui sont vraiment magnifiques, tout en noir et blanc avec des couvertures en couleur, et qui font quelques 140 pages chacun. Et je vous recommande fortement la lecture de ce Fun, qui est une plongée tout à fait étonnante dans un univers, dans des moments de l'histoire aussi, et l'évolution de différentes sociétés. Et on pourrait penser comme ça que, bon, peut-être l'histoire des mots croisés, c'est assez anecdotique, mais pas du tout. Ça révèle beaucoup de choses sur un certain nombre d'éléments géopolitiques. Et c'est ce que réussit très très bien à mener Paolo Basilieri dans ses doubles volumes, donc Fun et More Fun, chez Ici Même. Et le même auteur italien, Paolo Basilieri, vient de commencer l'adaptation d'une série de livres de polar de Giorgio Serbanenko. La première enquête de Duca Lamberti s'intitule Vénus privée et vient d'être publiée donc en bande dessinée, là aussi par les éditions Ici Même. Ça coûte 22 euros pour ce livre qui en fait 160 pages, tout en noir blanc, avec un dessin tout aussi précis que dans More Fun et Fun, mais un peu plus lâché, un peu plus arrondi à des endroits un peu plus étonnants dans la représentation de ces personnages, qui ont parfois des visages un peu grotesques et grimaçants. C'est une histoire de polar très très bien menée, avec un ancien médecin qui a été radié de l'ordre des médecins pour avoir pratiqué une euthanasie, et il a fait de la prison. Il est aussi quelqu'un qui a des bonnes intuitions policières de par son père, qui était lui-même policier. Il va donc être employé tout d'abord par un homme fortuné qui veut que cet ex-médecin, ex-taulard, colle au basque de son fils qui semble faire n'importe quoi et être relativement dans les excès, dépressif, voire suicidaire. Il y a aussi l'histoire d'un meurtre. Originellement, l'ouvrage s'ouvre sur la découverte d'une jeune femme assassinée. Et on va donc suivre cette enquête avec pas mal de passion, d'intérêt et surtout des rebondissements, évidemment, comme dans les meilleurs polars, avec des éléments, des personnages qui sont troubles et qui ne sont pas exactement ceux que l'on imaginait. Vénus privée, donc très belle adaptation en bande dessinée de Paolo Basilieri du roman de Giorgio Serbanenko. Et c'est la première des quatre adaptations prévues donc, que publieront les éditions ici même. On reste en Italie avec, aux éditions Futuropolis, le nouveau livre de JP qui s'intitule Stacy et qui est un très grand livre, très étonnant et très à la fois envoûtant et repoussant. Stacy, c'est le récit d'un fantasme, de quelque chose de malsain, d'un personnage qui, à un moment, va vriller, peut-être péter les plombs, comme on dirait. Il s'agit pour JP de mettre à distance quelque chose qui lui est arrivé par les réseaux, par Instagram, à la faveur d'un strip un peu maladroit. Il a voulu faire une forme d'humour autour d'une phrase féministe, eh bien, il s'est fait lyncher, tout simplement, sur les réseaux sociaux, et il en est ressorti pour lui un grand choc, une remise en cause de lui-même, une question personnelle sur son état de mâle blanc dominant, sur la manière dont on pouvait ou pas s'adresser, mais aussi sur la façon dont les tribunaux populaires s'emparaient de sujets et parfois lynchaient sans compromis les personnes mises en cause. Et donc, à travers cette expérience personnelle, eh bien, il a transposé ça dans un récit de fiction avec un personnage, on va dire, un peu auto-fictionnel, qui travaille dans le monde des médias, dans la série télé très exactement, tout comme JP le fait d'ailleurs, et qui est un des co-scénaristes d'une série avec tous les questionnements plus ou moins politiquement corrects que peuvent se poser une équipe de scénaristes. Et ce personnage principal va justement, au gré d'une interview où il va lâcher quelques mots de trop, un peu limite, un peu étonnant sur un récit, un rêve qu'il fait régulièrement avec quelque chose d'un peu abject par rapport à une femme, eh bien, il va se retrouver blacklisté, lui aussi, mis au banc. Et de là, quelque chose va se développer de l'ordre d'une version démoniaque de lui-même qui va encore plus se développer. Et tout cela est représenté de très très belle manière graphiquement par JP qui libère complètement son trait. Et le récit que j'en fais là est peut-être trop pragmatique et trop basiquement premier degré, alors que tout l'enjeu de ce livre est justement de ne pas être manichéen et de montrer les différentes strates d'un enfermement, d'une bascule dans une forme de folie, dans quelque chose en tout cas de l'ordre de la psyché interne. C'est un livre vraiment très très étonnant qui a déjà reçu quelques prix en Italie et peut-être que ce sera le cas aussi en France. Il est donc publié par Futuropolis et c'est une bande dessinée tout en noir blanc qui fait 256 pages et qui coûte 25 euros et qui est une bonne manière pour JP de se remettre en selle et peut-être de libérer son dessin à certains endroits avec quelque chose de beaucoup plus lâché, de presque volontairement brouillon par moment. Une autre bande dessinée, là pour le coup plus un exercice de style et deux autrices vraiment à suivre, Elisabeth Holville Et Iris Pouy, la première, fait le dessin, la seconde a créé le scénario. Ce sont les contes de la mansarde publiés par l'employé du mois. Un très beau gros livre de quelques 200 pages et qui coûte 22 euros. Dans une bichromie avec des teintes différentes selon les trois histoires qui composent ce livre. Des histoires un peu horrifiques. On pourrait presque être, si vous vous souvenez de cette série télévisée, dans Hitchcock présente ou dans des histoires un peu de la quatrième dimension, de Twilight Zone. Quelque chose qui commence de manière réaliste et qui vrille toujours un peu à un moment vers du fantastique un peu horrifique, un peu sordide. De quoi s'agit-il? Eh bien, comme le titre l'indique, il s'agit d'une mansarde. Une mansarde dans un appartement au dernier étage à Paris, dans lequel les trois histoires vont se situer à un moment ou à un autre, et les protagonistes vont occuper cette mansarde à un moment ou à un autre de leur vie, mais à des époques différentes. Le récit est raconté par une vieille dame dans un bistrot, et qui va permettre le lien entre les trois histoires, et aussi boucler de belle manière cette histoire, mais je ne vous révèle rien parce qu'il y a vraiment beaucoup de surprises, de suspense, en tout cas de rebondissements dans la manière dont les deux autrices mènent leurs histoires. Mais chaque fois, il y a quelque chose qui fait vriller le quotidien d'un couple, par exemple, ou d'une femme seule, et ça termine même avec une autrice de bande dessinée qui est dans ses questionnements et dans le côté très chronophage de ce travail, de ce métier d'autrice de bande dessinée. Donc on a là aussi une transposition complète des deux autrices, justement. Ça donne un ouvrage vraiment envoûtant, assez addictif, sur lequel on a envie de revenir, de reprendre les détails, de voir comment la construction très habile s'est menée par petites strates successives au fur et à mesure des pages. Et c'est un très joli livre publié par l'employé du mois, donc cette structure belge, notamment dans un format carré, cartonné, qui est très plaisant aussi dans sa façon à lire. Un autre ouvrage d'un tout jeune auteur, Henri Crabière, qui est publié par les éditions Miss Mai, qui propose d'emblée un très gros volume, très beau et gros volume souple en bichromie, avec un orange assez poussé qu'on voit d'emblée sur la couverture. Le livre s'intitule « Hubert et Alexis ». Et c'est donc encore un livre très joliment façonné par les éditions Misma. 224 pages de cette bichromie, 28 euros pour donc un assez grand format, 21-29-7, 1 à 4. Une histoire de deux hommes, deux garçons, Hubert et Alexis, qui ont un coup de foudre l'un pour l'autre dans un musée et qui vont filer un amour quasi parfait. Hubert est photographe, Alexis, lui, travaille au sein d'une galerie d'art. Tout n'est pas forcément rose dans leur quotidien, mais bon an, mal an, ils avancent. Il y a des rapports étonnants avec leurs collègues, avec les gens qu'ils croisent. On est dans quelque chose tout d'abord de presque quotidien, malgré le dessin assez tordu de Henri Crabrière, avec des formes, des proportions tout à fait étonnantes de ces personnages, selon aussi leurs sentiments et ce qu'ils ressentent. Ils peuvent être parfois très longilignes, très grands, puis parfois tout écrasés et un peu petits et ronds. Quelques gros plans tout à fait étonnants, un travail sur les trames, sur les perspectives, sur les traits, des doubles pages, et puis aussi des moments beaucoup plus classiques de bande dessinée mise en case. Tout un tas de travaux graphiques différents pour une histoire qui commence de manière tout à fait quotidienne et puis qui, là aussi, comme dans les contes de la mansarde, va vriller sur quelque chose de beaucoup plus étrange, beaucoup plus fantastique, notamment à la faveur d'une traversée. Les deux personnages, Hubert et Alexis, qui sont dans une ville qui semble moyenne, vont traverser en bateau la mer toute proche pour se rendre sur l'île voisine. Une île étonnante où tout semble changer, y compris le climat, et puis où il y a comme des traces inquiétantes de personnes qui vivraient là et où finalement tout semble basculer comme de l'autre côté du miroir à la manière d'un Lewis Carroll. C'est vraiment un récit qui ne va pas du tout là où on l'attendrait et ça fait partie des très belles surprises de ce Hubert et Alexis d'Henri Crabière aux éditions Misma pour 28 euros. Un livre et un auteur surtout à suivre très 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 certainement de très près. Alors, une autre nouveauté et un autre premier livre, je crois bien, c'est celui de Aude Bertrand aux éditions 2024. Ça s'intitule « Au travers du rayon ». On est aussi dans un très beau travail de couleurs, cette fois en quadrichromie, et sur un travail, là aussi, qui fonctionne par strate, par couche, par avancée successive dans le récit, par petites touches. On ne nous livre pas tout d'emblée. On suit le personnage principal, une jeune femme, qui semble passer un peu de temps à attendre, à observer, à écouter les gens dans un parc, à regarder des films sur son écran d'ordinateur, à se rendre au cinéma, à travailler plus ou moins, et puis à livrer un peu ses sentiments et à essayer de toucher au plus juste du sentiment humain. Il y a plein de très belles pages qui organisent le dessin à l'intérieur de la page de différentes manières, soit en fonctionnant par cases, mais pas forcément avec le blanc intericonique qui est habituel dans la bande dessinée. Les pages sont toutes peut-être collées les unes aux autres, qui fonctionnent comme un tableau ou une forme de puzzle, et puis d'autres éléments dans certaines pages pleines qui amènent une autre manière de créer la narration par des sortes d'impostes et de dessins ronds à l'intérieur de la grande page. C'est très subtil, très doux dans l'agencement, et puis à la faveur des rencontres, et de la rencontre d'un garçon notamment, eh bien, la jeune femme va essayer d'explorer un peu plus encore le presque rien et la très grande délicatesse des sentiments humains. Alors, au travers du rayon, très précisément, c'est aussi un livre de très grande cinéphilie par ce qu'il reste, les strates, les souvenirs, les fantômes presque, de ce qui peut nous rester de films et de sentiments. Et notamment le film Le Rayon Vert d'Éric Rohmer, qui est exactement sur cette question-là, le rayon vert étant le moment, si on l'observe, où on pourrait définir les sentiments, la teneur des sentiments, de l'amour notamment. C'est un peu à l'image de la couverture où on voit presque un dessin de scène assez quotidienne, un banc, un personnage assis dessus, le personnage principal, elle, debout, en chaussettes, devant nous presque, comme éclairé par l'éclairage peut-être d'un film ou d'un projecteur, un livre à la main, et puis il y a plein d'objets, d'éléments du décor qui sont en surimpression, comme transparent sur la couverture et qui, à la faveur de quelques reflets lumineux, vont apparaître comme des strates, donc comme des souvenirs de quelque chose. Difficile de résumer la subtilité de ce livre, mais je vous conseille très très fortement cette lecture. Il coûte 26 euros, donc, ce livre, publié aux éditions 2024, là aussi une très belle façon, comme souvent chez les éditions 2024. Et c'est le livre de Aude Bertrand, Au travers du rayon. Toujours chez 2024, l'immense subtilité de Sophie Guérive, dont j'ai déjà dit ici plein de fois le bien, que je pense notamment de sa série de livres Tulip, ou autour de l'univers de Tulip, aux éditions 2024. Elle a trouvé avec Tulip quelque chose de très puissant, un peu probablement ce qu'avait trouvé Charles Schulz avec les Peanuts, ou plus récemment Nilso avec Jérôme d'Alphagraphe, c'est-à-dire avec un personnage et avec l'univers que charrie ce personnage, eh bien, la possibilité de presque tout dire du monde qui l'entoure, depuis la subtilité de certains sentiments ou de certains rapports humains, amicaux, fraternels ou même animaux, dans son cas, et puis aussi de dire la violence du monde, la tristesse des choses. Les Amours de Tulip, c'est le nouveau volume de la série principale Tulip, donc aux éditions 2024, qui coûte 16 euros pour 96 pages, tout en couleur, et ça fonctionne souvent sur une page, mais parfois un peu plus, qui est découpée en cases tout à fait strictes. Et à l'intérieur de ça, eh bien, quelques éléments, des réflexions de différents personnages. Il y a Tulip, cet ours donc en chandail, avec ses amis, qui sont tous des animaux, Crocus le serpent, Violette l'oiseau. Et puis, il y a d'autres nouveaux personnages qui apparaissent. On a par exemple cette page, Tulip qui réfléchit. Quand rien ne va plus, Tulip s'allonge, il contemple les nuages et les étoiles. Il se dit que là-bas, il y a une planète, et que sur cette planète, il y a des mers et des monts, des déserts et des lacs, des plantes et des bêtes, des villes et des gens, et que parmi ces gens, en ce moment même, quelqu'un s'en fiche. Avec ce texte, il y a évidemment tous les dessins, et ce quelqu'un qui s'en fiche, c'est une sorte de créatures vertes avec de drôles de triple oreilles sur le crâne et au moins trois bras, et qui, pour montrer qu'ils s'en fichent, jonglent avec quelques petites boules rondes qui pourraient être des bonbons et que d'ailleurs il mange dans la dernière case. Toute la subtilité, la malice et la grande poésie de Sophie Guérive se trouvent dans ces quelques pages. Si vous ne l'avez pas encore fait, vraiment, lisez Tulipe. Passez le pas d'une apparente simplicité, voire d'un côté un peu enfantin pour le dessin. Ça n'est pas le cas. Comprenez que c'est à lire par tout le monde et à tous les âges. Alors, en même temps que sort Les Amours de Tulipe, qui est donc dans la série principale, qu'elle conseille à partir de 11-12 ans, il y a Le Club des Amis numéro 4. Le Club des Amis, c'est une série plus jeune public, peut-être à partir de 6 ans, et c'est donc le quatrième volume du Club des Amis. En gros, le Club des Amis, c'est Tulipe, quand il était plus petit, avec ses amis déjà, et avec leur rapport au paysage, à la nature, mais aussi à leurs parents. Dans ce Club des Amis numéro 4, cette fois c'est l'été, après avoir passé l'hiver, et ben, il manque de l'eau, il y a trop de chaleur. Et le Club des Amis va essayer de trouver pourquoi la montagne pleure, c'est le titre, la montagne qui pleure. Ça coûte 16 € pour 56 pages, tout en couleur, dans un joli format cartonné. C'est fort recommandable là aussi, et c'est le complément absolument indispensable aux aventures de Tulipe. Et on peut même pousser les choses encore plus loin. À partir de sa naissance et jusqu'à 3 ans, pour les 0-3 ans, il y a des livres tout cartonnés, vous savez, très durs, qu'on peut facilement manipuler quand on est un enfant pas très soigneux. 24 pages pour 8,90 €, des livres tout en carton qui sont des petits précis développés par Crocus, qui est l'un des personnages donc, de la série Tulipe, c'est le serpent. Et donc on a 6 volumes qui sont parus, certains en mars et d'autres tout récemment en septembre. Crocus aime le bruit, Crocus et les monstres, Crocus et le caca, Crocus et l'école, Crocus est puni, Crocus et les légumes. Autant dire qu'il n'est pas besoin pour moi de les ouvrir pour vous dire de quoi il s'agit exactement, vous aurez compris. Mais chaque fois c'est très drôle, très malin, très subtil et toujours un peu poétique. Et ça permet de prendre un peu de hauteur sur certaines questions qui sont à l'œuvre souvent dans la toute petite enfance. Voilà pour l'univers de Sophie Guérive qui continue de se développer de très très belle manière aux éditions 2024 et aussi dans la collection dite pour enfants des éditions 2024 qui s'intitule 4048. On reste dans cette collection 4048 et dans la petite enfance avec Coucou Sommeil de Sign Park. C'est un grand format à l'italienne. Très très beau livre qui coûte 16 €, tout en couleur, et qui évoque donc le sommeil. Je vais vous le lire, comme on lirait une histoire à un enfant. Certes, nous sommes le matin, mais peut-être que ça vous donnera envie de vous endormir, ou de vous questionner sur votre sommeil. Mais vous dire d'abord, avant de lire le texte, qui est très beau et qui fonctionne de manière très subtile là aussi, vous dire que les dessins sont entièrement développés dans la page, de manière donc complètement horizontale, un peu, si vous vous souvenez, à la manière des grands volumes de Barbapapa dans les années 70. On a comme ça de grands paysages avec le personnage principal, ce fameux sommeil, qui se déplace à l'intérieur d'un même décor de plusieurs manières, ce qui fait que ça donne une dynamique et un rythme aussi à ce récit qui passe dans un univers urbain à un univers ensuite plutôt rural, et différentes possibilités de plonger dans des eaux, dans la nuit, dans les profondeurs, dans la forêt. Voici donc ce que nous dit le texte. Coucou sommeil, c'est moi. Tu te souviens, on avait rendez-vous. Sommeil, c'est toi qui viens nous voir tous les soirs, et puis tu rends visite à tous les êtres vivants, et chacun s'endort. Tu cours de paupière en paupière, là où la nuit tombe. De la cigogne au ver de terre, quel travail! Et hop, bonne nuit le chat. Soudain, une pensée te surprend. Et moi, pourquoi je n'ai jamais sommeil? Pourquoi on dort? Et comment on dort? Tu essayes de demander autour de toi, mais tout le monde s'endort quand tu arrives. Alors tu te poses sur une fleur cotonneuse et te berces doucement dans le vent qui se lève. Mais tu n'as pas sommeil. Tu te poses au milieu des poussins, dans la barbe laineuse du Père Noël, sur un sac poubelle bien dodu et sur une yourte duveteuse, sur la cime d'un baobab, contre une montgolfière moelleuse et rebondie, dans le lit de satin du roi d'Angleterre, tout au milieu d'une fumée veloutée. Tu te poses sur les notes d'une paisible berceuse, puis au cœur d'une méditation immobile, dans le courant chaud du fleuve Amazone et sur le vent coupant de Sibérie. Tu t'es posé partout, mais tu n'as toujours pas sommeil. Tu as seulement envie de pleurer. Alors, après ce tour du monde, tu reviens près du chat. Lui, il dort toujours. Tu t'allonges près de lui. Ron, ron, ron. Le ronron du chat emplit l'air frais de la nuit. On croirait un petit train qui roule tout doucement, en laissant plein de rêves derrière lui. Bonne nuit, sommeil. Et à tout de suite. C'était Coucou Sommeil de Sian Park. Très beau livre jeunesse aux éditions 2024 dans leur collection 4048 pour 16 euros. De jeunesse, il est question, mais d'une autre manière. Il s'agit de transmission et ce sera le dernier livre de cette longue chronique. Mais quel livre ? Un livre que j'attendais depuis très longtemps, vous le savez peut-être si vous êtes habitué de cette antenne, de cette même chronique. Je suis complètement en admiration devant le travail de Neil So, auteur de bande dessinée qui œuvre depuis l'orée des années 90, tout d'abord avec sa structure Le Cimo à Rennes, et puis avec la série Jérôme d'Alphagraphe que j'évoquais tout à l'heure, qui a été publiée par les éditions Flubbelub, et puis depuis quelques années, avec les éditions Misma, il y a un très joli compagnonnage. Chaque fois, les éditions Misma fabriquent de très beaux livres qui mettent en valeur le travail de Neil So. C'est le cas de nouveau pour ce livre baptisé « Les July » qui vient donc tout juste de sortir. 24 euros, 312 pages, tout en noir blanc. Si vous n'avez jamais vu le travail de Neil So, il vous suffira d'ouvrir le livre pour comprendre. Neil So travaille au rotring très très fin, 0-1, et par succession de hachures et de petits traits, il compose des paysages, des personnages tout à fait envoûtants, saisissants, absorbants. Lui-même s'absorbe dans le dessin, et c'est comme ça que ces histoires naissent, tout d'abord par le dessin, par des successions de motifs, de paysages, qui, de l'abstraction, deviennent plus figuratifs, du moment qu'il pose un trait à un endroit ou à un autre. Par exemple, une série de hachures deviennent une prairie, un paysage, à partir du moment où une petite cabane sera posée dans un coin. C'est le cas pour ces July, dont j'avais vu quelques pages préparatoires depuis quelques années déjà, avec cette série de petits personnages à bonnet phrygien qui semblaient comme sortir de l'eau, arpenter un paysage, marcher dans la forêt, dans la prairie, gravir des rochers. De là est née une histoire. Ces petits personnages sont de petites personnages, ce sont toutes des femmes, et ces petites femmes sont nées de l'imagination d'un enfant. Un enfant qui se promène avec son père. On ne sait pas bien pourquoi et où errent ces deux-là. Le père et le fils marchent ensemble, se baladent à vélo, discutent. Le père cherche à restimuler dans l'imagination de l'enfant les souvenirs de ces July dont il semble qu'il lui parlait plus jeune. Et petit à petit, la mémoire revient, le souvenir revient chez l'enfant qui détaille un peu plus ce que le père avait compris. Mais le père lui-même raconte l'histoire des July. Le père est un conteur, le père est un dessinateur, le père se pose des questions de création, de narration, et parfois presque enfermé dans sa création, et pourtant cherche à transmettre à son fils ses différentes histoires. C'est un très très beau travail de transmission que Neil So clairement adresse à son fils. Et on sent bien qu'à travers ce récit, certes de fiction, les réflexions, parfois même peut-être certaines bribes de dialogue, sont issues du quotidien, d'une forme d'autobiographie de Neil So. Et puis il y a donc en parallèle toute cette longue marche des July qui, comme leur nom l'indique, ne vivent qu'un mois. Ce sont des petites créatures fantastiques qui seraient comme des exemples de la respiration du monde, de la respiration de la terre peut-être, Elles naissent de l'eau et elles retournent dans l'eau. Elles ne vivent qu'un mois, mais c'est très intense. Elles se déplacent en groupe et pourtant, il y en a une qui aimerait faire cavalier seule ou cavalière seule, et qui d'ailleurs le tente à différents endroits, mais retrouve le groupe à d'autres moments. Il y a énormément de contemplation, comme toujours, comme souvent chez Nilsson, mais avec ce livre, il touche encore un peu plus loin un certain nombre des thématiques et des subtilités sentimentales et sensorielles qu'il développe depuis de nombreuses années dans ses ouvrages. C'est absolument remarquable. On pourrait oser le mot chef-d'œuvre qui est largement galvaudé, mais qui parfois mérite d'être remis en selle et de reprendre quelques lettres de noblesse. C'est un très beau livre, comme je le disais, une sorte de grand format roman avec une couverture toilée dans un verre profond et avec un petit médaillon très lumineux, comme une lune qui éclairerait la petite procession des July. C'est magnifique. Que dire d'autre qu'il faut absolument vous ruer chez votre libraire préféré pour trouver ce livre, l'observer un peu, le regarder, puis probablement vous le procurer pour le lire. Que l'auteur Nilsson sera présent à Nantes le 3 novembre prochain dans le festival Bifurcation qui se tiendra au nouveau Studio Théâtre. Il viendra dessiner en vrai autour d'une évocation de souvenirs là aussi, mais de souvenirs musicaux, autour du post-punk. Je vous en reparlerai, nous en reparlerons sur cette antenne. Voilà tout pour cette très longue chronique Je lire, qu'on va conclure avec justement un peu de musique autour de ces ouvrages, autour du travail mémoriel, du souvenir, de l'œuvre de Nilsson, peut-être en écoutant tout simplement Atmosphère de Joy Division.
By the rivers, through the streets, every corner.